Eh bien bonjour.
Oui, vous êtes sur le 92.2 MHz, c'est le front du lundi, qui comme tous les lundis à 12h30 sévit. Au menu aujourd'hui, un menu bien consistant qui vous permettra de résister aux rafales de vent là, qui souffle dehors. On va parler de l'occupation ce 1er novembre d'un bâtiment au 58 allée Jean Jaurès à Toulouse. On parlera également des drones. Ce dont il y a un an on s'inquiétait des drones et un an plus tard on les adore et on vous dira pourquoi. On parlera également de
on les adore, c'est pas nous hein.
Ouais, pas nous, non. Okay, les médias.
Ah voilà.
On parlera également de la stèle de Rémi Fraisse. On passera ensuite aux encagoulés de Tarnac, puis Pandora, leur retour, et puis également on parlera de la marche pour la dignité avec un son par rapport à cette marche qui s'est tenue le 31 octobre à Paris, donc samedi. Et enfin, on fera un petit parallèle avec la marche de 83, et là, on écoutera Bocnice, qui sera avec nous sur les ondes, bien sûr.
Et ben voilà, ben effectivement, un menu assez consistant, bon appétit. Hein. Et bien, en guise de hors d'œuvre, nous sommes le 2 novembre 2015, c'était un 2 novembre, c'est l'heure de l'éphéméride, 2 novembre 1979, je suis le grand Jacques Mérine, qui nous quittait, avec un petit peu poussé dehors quand même par la police et la brigade du commissaire Broussard, voilà, c'était à Paris, il s'est fait plomber, Jacques Mérine. Voilà, c'était en guise de bougie. Peut-être une de ses dernières citations. Je ne voulais pas que ma vie soit réglée d'avance ou décidée par d'autres, disait-il. Si à 6 heures du matin j'avais envie de faire l'amour, je voulais prendre le temps de le faire sans regarder ma montre. Je voulais vivre sans heure, considérant que la première contrainte de l'homme a vu le jour où il s'est mis à calculer le temps. Toutes les phrases usuelles de la vie courante me résonnaient dans la tête. Pas le temps de arriver à temps, gagner du temps, perdre son temps. Moi, je voulais avoir le temps de vivre et la seule façon d'y arriver était de ne pas en être l'esclave. Je savais l'irrationalisme de ma théorie, qui était inapplicable pour fonder une société, mais qu'était-elle cette société avec ses beaux principes et ses lois ? Voilà, c'est signé Jacques Mérine. Eh bien, il y a une réponse à cette question qu'il posait. Quelle est cette société avec ses beaux principes et ses lois ? Une belle réponse qu'on trouve dans le Figaro de la semaine dernière. Les ventes d'armes explosent, les exportations d'armement français s'envolent en 2015. Le Koweït a signé mercredi plusieurs accords et déclarations d'intention avec la France d'une valeur de 2,5 milliards d'euros. L'arrangement technique, ouvrez les guillemets puis vous les fermez, porte notamment sur l'acquisition ferme de 24 hélicoptères de combat Caracal, qu'on imagine ferme eux aussi, hein, des véhicules blindés également, très fermes, légers mais fermes, et du matériel toujours ferme pour la maintenance de patrouilleurs. L'année est donc fructueuse pour Paris, nous dit le Figaro, après l'accord de vente de 2 Mistral, et oui on le rappelle, et 24 Rafales à l'Égypte et des 24 Rafales au Qatar en mai notamment. Voilà donc citation d'un proche de Jean-Yves Le Drian, notre toujours ministre de la Défense. 2015 devrait être une année record avec au moins 15 milliards d'euros de contrats et plus encore si d'autres ventes se concrétisent d'ici la fin de l'année. En comparaison, parce que le journalisme c'est aussi ça, de nous donner des chiffres de référence. En comparaison, les commandes annuelles représentaient 8,2 petits milliards en 2014 et 4,8 minuscules milliards en 2012. Citation du même proche de Jean-Yves Le Drian, les Rafales restent les têtes de pont des succès à l'exportation, même si tout un ensemble d'équipements comme des frégates multimissions a aussi été vendu. L'armée française a beaucoup utilisé son matériel, notamment en particulier les Rafales. L'idée c'est de répéter le mot Rafale le plus de fois possible. En particulier les Rafales qui ont démontré leur efficacité sur de nombreux théâtres d'opérations. Et oui, ce fameux théâtre dont nous passons nos émissions à vous parler. En Libye, au Mali notamment, contrairement à des avions concurrents, précise cette même source, Paris a su aussi tracer une feuille de route de développement pour investir en amont et anticiper les besoins. L'avion d'assaut s'est ainsi démarqué grâce à son radar très sophistiqué. Voilà, c'était la réponse à la question de Jacques Mérine il y a 36 ans. Mais qu'était-elle cette société avec ses beaux principes, ses lois, il aurait pu ajouter, et ses ventes d'armes à l'exportation.
Eh bien, on continue avec cette société, ses lois et pas ses ventes d'armes, et ses occupations de maisons.
Alors, parce qu'on a passé un coup de fil au 115, et on a eu la réponse qu'on peut vous refaire en direct. Ça faisait bip, 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 bip. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand vous appelez le 115, parce que vous êtes à la rue. Et du coup...
On ne fait pourtant de tort à personne. Des logements sont vides, on réquisitionne.
Je vois à l'autogéré pour l'inaugurer, officialiser. Du coup, il est à deux pas d'ici.
Donc on prépare une ouverture d'un nouveau centre social autogéré. C'est pas un moment qu'on n'a pas eu de centre social. Donc là voilà, on compte sur la motivation, la mobilisation des gens pour que ça réussisse.
Du coup, il faudra rentrer assez rapidement.
Allez, Jean Jaurès, rue des Bacheliers. Une cinquantaine de personnes. Un bâtiment.
Toulouse, le 1er novembre 2015. Chers voisins, nous sommes de nouveaux habitants du quartier. Une quinzaine de personnes, femmes seules, avec enfants, personnes âgées, travailleurs pauvres, etc., à avoir décidé de nous organiser grâce à l'entraide pour vivre dignement. En ce premier jour de trêve hivernale, nous avons choisi d'habiter le bâtiment du 58 allée Jean Jaurès depuis le jeudi 28 octobre 2015. Ce bâtiment vide depuis de nombreux mois et appartenant à un promoteur immobilier, nous avons décidé de le réquisitionner. L'État ne nous donnant aucune solution, nous nous sommes donc débrouillés par nous-mêmes. Trouver un équilibre de vie commence par avoir un logement stable. Cuisiner, se laver, dormir dans un lieu où on se sent en sécurité. Permet d'aller au travail, suivre une scolarité de manière plus concentrée pour nos enfants. Pour nous, femmes, familles et enfants, c'est la menace de l'expulsion sans aucune solution de relogement. Nous sommes ouverts à toute discussion et nouvelle rencontre. N'hésitez pas à venir passer un moment convivial. Au plaisir de vous rencontrer, les habitants du 58 allée Jean Jaurès.
Moi, je suis toujours pour la négociation. J'aimerais que ces gens-là aillent voir la mairie, essayent de trouver des interlocuteurs, et voilà, plutôt que de le faire de force. Mais je sais bien que c'est très difficile de faire les choses par la négociation.
On peut mettre à la portée du propriétaire, et puis à la portée du public, des jeunes comme nous, quoi. Propriétaire, c'est certainement c'est la merde. Nous, personnellement.
Ouais, en même temps, l'hiver arrive. Voilà. Si c'est un immeuble qui sert à rien, autant que les gens se logent aussi.
Non, c'est normal qu'il occupe.
Non, moi, je pense qu'on ferait la même chose si on était à la rue, quoi. À mon avis, on ferait.
Ouais, voilà, c'est une bonne question, ça.
C'est ça, il faut se dire, voilà, qu'est-ce qu'on ferait si on était dans leur place? Et bien, on ferait comme eux, je pense. Les loyers ne sont pas abordables pour les gens.
Exactement, parce qu'il y a des
on
gens
voit à la rue. Et puis on voit des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement. Donc, c'est pas très.
Sur Toulouse, quand même, c'est impressionnant. Tous les gens qui sont à la rue, qui.
Ce que je dis, il faut se mettre à la place du propriétaire, puis à la place.
Mais le propriétaire, lui, c'est pas sa faute. Il n'a pas à subir ça. C'est à l'État de faire quelque chose.
Un promoteur, M. Fontin.
Ah enfin, oui.
C'est un bureau, vous connaissez ce nom, j'imagine.
Bah, enfin, oui, après, oui. On le voit, mais.
Il est vieux, Fontin. Hein. C'est pas tout jeune. Il a fait construire des bâtiments partout, des bureaux qui sont pratiquement vides. Et voilà, il a fait. C'est du bénéfice, c'est tout. Il n'a rien à faire. Bah, le reste, au départ, Fontin faisait que des bureaux. Ils ont raison, en attendant d'avoir une. C'est pas une situation pérenne, je veux dire, mais le temps que ça puisse se débloquer. Moi, je trouve qu'ils ont raison d'investir.
Tant qu'ils ne seront pas taxés, les gens, tant qu'ils le laissent vide pendant des années, voilà. Hein. S'il y avait une taxe très importante pour les dissuader, ben.
Non, mais d'après ce que je vois, il ne peut pas être taxé, parce qu'en plus, il va faire des bureaux. Donc, non, il va s'en sortir, lui. Lui va s'en sortir. Hein.
Pas besoin d'être plus jadas pour annoncer la prochaine crasse. Si on est encore expulsé, ailleurs tout va recommencer. On ne fait pourtant de tort à personne, mais la France en vide, on réquisitionne. Les politiques n'aiment pas que l'on se débrouille mieux sans eux. Les politiques n'aiment pas que l'on se débrouille mieux sans eux. Pour que nous voulons nous voir rendus, on lâchera rien, bien entendu.
Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute du Front du Lundi, c'est normal, c'est lundi.
C'est sympa ce petit micro-trottoir là, non? Oui. Avec ces gens qui soutiennent.
Alors, c'était des passantes et des passants qui se trouvaient sur le trottoir de la rue, donc des allées Jean Jaurès, hier, puisque hier c'était l'ouverture officielle du nouveau, de ce nouveau bâtiment d'habitation, hein, qui est destiné à donc, des gens qui étaient à la rue. On 58 allées Jean Jaurès, on le rappelle. Donc, ils sont là depuis en fait 3-4 jours. Hier, c'était l'officialisation. Il y a des AG à 19h, vous pouvez aller aller écouter, participer à ce nouveau collectif d'habitants. Voilà, et donc nous on était sur le trottoir, on avait été prévenus et donc on demandait aux passants et aux passantes un peu des ressentis sur ça. Alors la question est de savoir, là, parce qu'on voulait passer la parole.
Bah, on voulait savoir si, s'il y avait du monde encore dedans, parce que c'est ça le problème avec ce genre d'occupation, c'est que des fois ça ne dure qu'un temps, des fois c'est un peu rapide et puis on a un coup de fil là tout de suite.
C'est bon, ça le direct. Hein.
Voilà, vous entendez la sonnerie
qui va nous le dire. Allô.
Oui.
Allô. Est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends.
Allô.
Alors, il y a peut-être un petit...
Allô.
Moi, je vous entends, allô.
J'ai l'impression qu'on nous entend presque.
Moi, je vous entends, les gars.
Si, ça monte. Ah.
Est-ce que vous l'entendez?
Moi, je vous entends,
Parle-nous, parle-nous. Pourquoi? Alors, vas-y, essaye encore.
Oui, ça y est.
Ouais.
C'est bon.
Salut.
Salut.
Alors, est-ce que ça tient toujours?
Eh bien, oui, ça tient toujours. Donc, on est. Donc, voilà, c'était l'ouverture officielle hier. Je pense qu'on vient d'entendre des petits extraits juste à l'instant. Et il y a toujours besoin de monde. Les flics ne sont pas encore passés. Donc, comme d'hab, il y a besoin qu'il y ait un maximum de présence sur les lieux pendant au moins 48 heures. Voilà, sachant qu'en plus, il y a une petite alarme qui a sonné à l'instant, il y a 5-10 minutes. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont motivés, là, cet après-midi, ce serait cool de passer et relayer un peu les camarades.
D'accord. Quand tu dis qu'il y a eu une alarme, c'est une alarme du bâtiment qui a sonné?
Ouais, voilà, ouais.
D'accord. Donc là, la possibilité, c'est que la police déboule un peu à n'importe quel moment et il y a des gens qui sont là déjà depuis jeudi dernier, donc c'est bien de relayer.
Et comme d'habitude, plus on est nombreux, plus les flics hésitent à expulser, plus ça prend de temps, plus il y a des soutiens qui peuvent arriver à l'instant T, quoi, quand ils sont là. Donc voilà, c'est vraiment important là, pendant deux jours qu'il y ait un maximum de monde. Et si jamais ce soir à 19h, en fait, il y a une AG d'organisation sur ce nouveau lieu qui se fera directement là-bas, au 58 allée Jean Jaurès.
Eh bien, très bien. Donc, on rappelle, hein, bâtiment vide depuis janvier, et qu'on nous promet des bureaux à louer. C'est donc le bien connu Monsieur Fonta qui tente ses petites spéculations. Et bien là, il y a pour le coup un collectif de gens qui étaient à la rue. Très bien. Donc, c'est un assez beau bâtiment. C'était quoi avant?
Avant, c'était un SIAO. Je pense que c'est un truc d'orientation pour étudiants. Mais c'est vrai que c'est super grand. Il y a 4 étages. Il y a moyen, je pense, on pense d'y vivre autour de 40-50 personnes. Donc c'est vraiment une belle prise qu'il ne faudrait pas qu'on perde.
D'accord. Eh bien, on appelle toutes nos auditeurs et auditrices d'y aller. Et si vous ratez l'émission, ne vous inquiétez pas, elle est en podcast après. Vous pouvez l'écouter même de là-bas. Il y a des postes radio.
Voilà, sur 58 Allée Jean Jaurès.
58 Allée Jean Jaurès.
À 19h.
Et vous pouvez y aller dès maintenant. Merci Thomas pour les dernières infos. Et à très bientôt.
Merci à vous.
Salut.
Et voilà, non, mais peut-être une belle histoire, ça fait plaisir, c'est encore possible. Alors c'est pas facile, hein, ça serait pas la première fois, on disait une petite alarme, ça serait pas la première fois que la police fait des expulsions borderline, on va dire, avec la légalité, hein, puisque chacun le sait, la liberté de la police ne suffit que si elle ne s'en sert pas. Et donc de temps en temps, elle prend quelques petites libertés avec ses mandats.
Faudrait pas qu'elle débarque avec des drones, quoi. C'est ça,
voilà,
truc, quoi.
Mais ça peut-être, d'ailleurs, on pourrait parler, faire un petit point sur ces drones, mm-hmm. quand même. Drone, ouais. Drone au national, drone international. Alors là, on a gardé une couverture qu'on adore, c'est la dépêche du midi d'il y a un an, le 2 novembre. On vous a déjà fait le coup, mais on vous le redit, le 2 novembre, c'était le retour sur la manif anti-Sivens. On nous promettait Toulouse saccagée. C'était la première manifestation deux jours après la mort de Rémi Fraisse. Et quand on ressort cette une, on se rend compte qu'il y avait aussi sur la colonne de droite, sécurité, ces mystérieux drones qui inquiètent. C'était il y a un an, les drones survolaient contrôler l'espace aérien. Et bien maintenant, ça va, on commence à digérer ça.
Exactement, je crois que les drones n'inquiètent plus. Ils ont été apprivoisés, notamment par des grosses boîtes, genre RTE, donc, qui s'occupent d'acheminer l'électricité, donc de construire tout ce qui est ces espèces de gros châteaux métalliques qui servent à soutenir des lignes haute tension ou très haute tension. Et justement, dans l'Aveyron, ces derniers jours, il y avait un gigantesque nid de frelons qui était à 80 mètres de hauteur et qui était donc indéboulonnable. Et du coup, RTE a eu l'idée de faire appel à une boîte spécialisée dans les drones, dans des drones qui trimballent sous leur ventre là, des caméras, et a mis en rapport avec un espèce d'inventeur forcément génial qui lui a équipé le drone en plus de la caméra d'une espèce de petit canon là, qui doit faire à peu près 1,50 m de long. Donc ce petit canon en fait au bout a été bricolé une espèce de petite cuve avec un insecticide ici d'ultraviolet, et ce drone a pu donc monter à 80 mètres, s'approcher, donc grâce à la caméra, on peut le téléguider du sol bien sûr, s'approcher relativement près du nid de frelons. Donc il s'est fait attaquer, mais bon, rien à faire, c'est un drone quoi, c'est indestructible. Et du coup le petit canon a pu rentrer dans le nid et complètement m'anesthésier avant de paralyser puis tuer dans d'atroces souffrances tous ces frelons asiatiques qui cependant, ceci dit, bouffent les abeilles, etc. Donc bref, c'était une première expérience du genre, c'est-à-dire on équipe un drone et on l'équipe surtout d'une caméra censée faire, mais on ne savait pas en plus l'équiper avec un petit canon capable de balancer donc là un insecticide, mais peut-être une prochaine fois des gaz lacrymo ou de lâcher des grenades assourdissantes, parce que ce bazar-là est même capable désormais de soutenir une charge en plein vol de 2 à 4 kg. Donc on imagine un petit peu que RTE va refiler le bébé au ministère de l'Intérieur, qui certainement pourra faire des choses extraordinaires avec ce genre d'appareil qu'on devrait certainement voir dans un avenir radieux dans les manifs quoi. Donc non content d'être surveillé, non content d'être filmé, ces drones vont pouvoir également agir directement. C'est beau ça.
Ça vous a plu? C'est pas fini. Alors donc il y a un an, la Dépêche du Midi disait à sujet de ces drones que ça posait de réels problèmes de sécurité. Et effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors si on est un nid de frelons par exemple, mais également si on habite du côté de Niamey au Niger, puisque on n'arrête pas le progrès, tu donnais une nouvelle innovation là sur les drones. Et bien une autre encore, jeudi dernier, on trouve ça dans Air et Cosmos Magazine, toute l'actualité aéronautique et spatiale, on apprend que le mercredi 30, donc c'est l'état-major des armées qui annonçait que pour la première fois, un drone français qui s'appelle Cocorico, un drone français a effectué une mission de plus de 25 heures, donc sans se reposer, hein, 25 heures, record battu par un MQ-9 Reaper, c'est le nom du drone, déployé à Niamey dans le cadre de l'opération Barkhane. On oublierait presque que pendant ce temps-là, l'armée française bombarde et fait la guerre au Niger. Selon General Atomics, qui a développé et produit ce drone, le drone en question, l'endurance maximale de l'appareil est de 27 heures, donc on y est presque. Et pour revenir un tout petit peu sur ça, c'est vrai que la France déploie ce genre de drones dans le Sahel depuis janvier 2014. On avait consacré quelques émissions du Front de lundi à ce sujet-là. À Niamey, dans le cadre de la grande coopération internationale, mais pas pour le développement, pour la guerre. À Niamey, elle opère en collaboration avec le personnel de General Atomics, qui est une entreprise ricaine, et donc les spécialistes qui viennent là, puisqu'il n'y a pas de transfert de technologie pour l'instant, les spécialistes américains sont chargés du décollage et de l'atterrissage des drones, ainsi que de l'entretien des véhicules. Mais enfin, elle nous rapprend Air et Cosmos Magazine, donc c'est toujours toute l'actualité aéronautique et spatiale de la guerre aussi, nous apprend qu'à terme, les pilotes français devraient aussi être formés à ces donc phases de départ et de retour des missions. C'est-il pas beau?
C'est beau ça. Mmh. Alors, on se demande si c'est un drone qui a eu raison de la stèle posé à la mémoire de Rémi Fraisse. Rappelez-vous, la semaine dernière, on parlait de cette stèle qui avait servi de lieu de commémoration pour la manif qui, au départ, était interdite, qui, en fait, ensuite a été autorisée donc, sur le site de Sivens, à l'endroit même où est tombé Rémi. Donc, on avait une espèce de gros bazar, une main en pierre du Tarn, s'il vous plaît, avec une espèce de globe, avec avec de fait de ferraille en fait, de morceaux comme des espèces de bois cerclé là, de roues de charrette. Donc
sur un socle en béton.
Sur un socle en béton, le tout bien ancré au sol. Le tout pesait quand même pas loin de 2 tonnes et faisait 2 mètres de haut.
Et il y a un journaliste radio bien connu à Toulouse qui nous disait, bah ça ils sont pas prêts de l'enlever.
Ouais, ils sont pas pris. Ouais, effectivement, ça paraissait un peu dur à enlever. Mais non, les pignoufs du coin, les pro-barrages, hein, comprenez, en ont eu raison. Donc, elle a été déposée dans la nuit du 19 au 20 et une semaine après, c'est-à-dire mercredi dernier. Des pro-barrages se sont vantés sur leur site internet. Ça y est, ni stèle, ni déchets. Sivens, c'est de nouveau libre, plus de pseudo-sculpture sur une parcelle privée. Alors c'est marrant parce qu'ils reprenaient un petit peu ce que disait la maréchaussée du coin qui avait été à qui France 3 a posé la question en disant mais voilà, c'est pas embêtant, la stèle était pas mal, elle était enlevée, tout ça. Et les filles ont dit ah non, mais attention, hein, déjà c'était illégal de la poser. Donc d'ailleurs, c'est une propriété privée et la CACG qui est donc propriétaire des terrains où doit se faire ou pas ce futur barrage voulait porter plainte parce que des gens aient posé donc cette stèle là. Du coup rebondissement, l'appel masqué qui est le collectif qui avait posé cette stèle a prévenu que d'ores et déjà il en bricolait une autre plus consistante et qu'il allait de nouveau la poser dans un endroit du site, pas forcément au même endroit, mais qu'il ne s'avouait pas vaincu. Donc à suivre.
Mon Dieu. Voilà. Du coup, est-ce qu'on passe un petit son? Voilà, on va faire ça. Wanna rush into the set? Spit right on your neck? I got the grimiest outlook, bubble font salt like a Lucy in a wet? These motherfuckers look trained. They saturated your brain. And you believe in every piece of propaganda let loose on your pussy ass frame. Enter the architect, the dumbass shit. Lost in the chemical mind of my outfit. Weatherman broke in front the punk husky. Clutch in the grippers and slit your wrist lovely. I bow down to the new left coat. Before the cats in the cradle to paint up a comedy. And I'm trying not to wig. My motherfuckers make me sick. And if you think that I'm a clown, it's because there's 20 motherfuckers hopping out the wig. Eat dick. And it's the weatherman, motherfucking clear. Wu-Tang-O. Punk, better watch your step, cause you really don't know where the Glock is kept. Robbery in progress, count the money you run with young punks that be acting ugly. We get guns by the trunk, clothes, nigga, watch out. Little bitch with a snub nose robbing your house. If you wanna start beef, I'm supplying that. Take your bitch's bike, discreet, tie it down. Have cars run over red, blood all over shit, time tracks all over shit. Take your buddies through a shooting lane, make you wanna do some thing, make you wanna switch your main, kill you quick. Cause Cammy's in the fast lane, making niggas act strange. When I hate great, I love when niggas trip. Cause it's really getting serious, niggas feeling inferior when bitches wanna hang out and hook the dick. Nigga, let me explain, you think you know, you have no idea. In my diarrhea, get hot and burn off ears. When I advance to the next round, mouths are open. Still fine, see your tour, leave your house smoking. Il s'en passe des choses dans nos lointaines contrées. La preuve avec cet article mercredi du Populaire. Le Populaire, c'est un journal, une feuille de chou là, qui sévit dans le Limousin et la Corrèze, qui parlait d'une ambiance très tendue mercredi matin dernier dans une ferme de Tarnac. Tiens. On apprend ainsi qu'une dizaine de policiers français et allemands sont intervenus dans une ferme du village de Tarnac vers 10h. Et donc c'était dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, on n'en sait pas plus. Sauf que ces policiers, nous dit le Populaire, ont été encerclés par une quarantaine d'individus encagoulés, les poussant à faire demi-tour. Diable. Vendredi matin, Ouest-France reprend l'info à son tour en évoquant l'action de manifestants encagoulés et précisant que la maison visée était celle de Julien Coupa. Donc Julien Coupa, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est celui qu'on soupçonne, qu'on accuse de sabotage de ligne SNCF sur des caténaires en 2008. Mais je crois qu'il mange les enfants aussi.
Je ne sais pas s'il mange les enfants, mais en tout cas, il les couvre. Hein, parce que des gens ont dit sur place, non mais c'est des conneries, il n'y a pas eu une seule cagoule de sortie, sauf celle du bébé. Et oui, parce qu'il commence à faire frais à Tarnac. Et donc, on encagoule les enfants, mais contre le froid. Pas forcément pour les dissimuler des yeux de la police. Eh ouais, tu vois, il s'en passe des choses quand même.
Il n'y a pas des skieurs en Corée
Je ne sais pas s'ils ont ouvert, parce que je ne sais pas la neige. Peut-être qu'ils ont encore du vent, mais s'il y a du vent, la neige ne tient pas. N'empêche que des gens de Tarnac ont tenu à faire une mise au poème via Internet en pondant un petit texte assez sympathique en revenant sur cette attaque du FBI allemand à Tarnac. N'ayons pas peur des mots. Donc eux disent, oui, bon, effectivement, ce mercredi 28 octobre, 3 ou 4, on ne sait pas, véhicules de police sont intervenus sur le village de Lacombe dans le cadre d'une enquête demandée par la police fédérale allemande. Ils voulaient perquisitionner le domicile d'une personne vivant sur le village de Lacombe à propos d'une affaire pour laquelle elle a déjà été entendue et perquisitionnée alors qu'elle vivait en Allemagne et qui date de 2002. Donc, c'était pas le domicile de Julien Coupa, contrairement à ce que disait West France. Mais bon, on sait comment les infos, ça part en rafale. Donc, du coup, on a successivement, nous disent les gens de Tarnac, entendu parler de perquisition d'une maison d'habitation, puis d'une caravane, sans oublier l'hypothèse d'une interpellation. La perquisition de la caravane, nous disent-ils, a d'abord été entamée avec le consentement de la personne visée par l'enquête, puis par on ne sait quel jeu de tension, mais du sentiment de se faire une fois de plus humilié par la bleusaille, la réaction collective a finalement été de leur demander fermement de partir. Et comme ils ne voulaient pas trop partir, ils ont été poussés dehors, abandonnant sur place leurs ébauches de mise sous scellé, c'est-à-dire des sous-vêtements, des brosses à dents et compagnie, et délaissant l'ordinateur de la personne visée dont ils s'apprêtaient à copier l'intégralité du disque dur. Fin de cet épisode d'opérette des experts. Encore quelques remarques et une dédicace. Il est toujours réconfortant de voir que nous demeurons nombreux à ne pas vouloir laisser la police faire son travail, étant entendu qu'elle travaille toujours contre nous et pour des États qui s'obstinent à détruire ceux qui se refusent à entrer ou à rester dans le rang. Ne doutons pas qu'ils puissent revenir, que ce soit cette fois-ci pour terminer leur sale travail ou une autre fois pour on ne sait quelle enquête antiterroriste initiée peut-être suite à un collage d'affiches subversives au scotch sur une cabine téléphonique. Et ils finissent en se faisant plaisir et en sortant un joli petit texte là contre la marée chaussée, en parlant directement aux flics. Tu n'es pas un héros justicier luttant contre d'odieux criminels qui conspirent à détruire ce monde. Ce que tu es au quotidien, c'est juste un banal fonctionnaire effectuant sans trop y croire son banal mais sale boulot, celui qui envoie à la fin banalement des petites gens, parfois un peu trop révoltés par l'injustice de ce monde, payer le prix de leur insoumission ou de leur non-respect des règles dans quelques geôles d'État pour des années. Au quotidien, tu ne défends pas la veuve et l'orphelin, mais ceux qui les asservissent. Tu ne défends pas la justice, mais ceux qui écrivent les lois, à même d'assurer leur pouvoir et sa perpétuation. Contre nous, contre toi, aussi toi qu'on envoie au casse-pipe, aujourd'hui comme il y a 7 ans, avec dans les yeux les images de la télé et dans la vie cette réalité qui refuse d'y coller, trop complexe et vivante pour cela. Ne t'étonne donc pas qu'on t'explose au visage. Comme ce fut si bien dit en d'autres temps, tu es le dernier point de contact entre les politiques et la population. Et on sait, et tu sais, combien les politiques travaillent désormais ouvertement contre la population. Ce qui détruise le monde, c'est ce que tu sers. Et c'est toi aussi en conséquence. Banalement, sans trop y croire. Alors change donc de chaîne ou de taf.
On change de pays, mais on garde les mêmes histoires avec, cette fois-ci, c'est en Espagne et c'est un peu la même chose. C'est la troisième vague d'arrestations sur l'opération Pandora. L'opération Pandora, c'était en novembre 2014. On avait arrêté 11 personnes à Madrid et à Barcelone. Il y avait ensuite eu l'opération Piñata. C'est un nom grotesque, mais c'était quand même une accusation qui avait amené aussi pas mal de gens derrière les barreaux. Et cette fois-ci, c'est 9 personnes, aussi encore 8 personnes, pardon, qui ont été arrêtées donc le 28 octobre 2015. On en est donc à 62 arrestations sur toutes ces affaires-là. Le son qu'on a entendu, c'est des gens qui ont voulu aussi empêcher une perquisition, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc on a une organisation criminelle à finalité terroriste en Espagne, et le pouvoir est bien décidé d'en finir avec tout ça. Avec donc là, on a une personne qui est restée. Il y a 8 personnes qui ont été remises en liberté avec un total de plus de 29 000 euros d'amende. Et donc, c'était bien 9 personnes. Donc, et un seul camarade qui est resté détenu en préventive avec pour seule accusation une note des Mossos d'Esquadra, hein, les CRS locaux, qui indique qu'il y a des indices de l'unité idéologique des GAC, groupe anarchiste coordonné, et une stratégie visant à déstabiliser l'État et altérer la paix sociale. Voilà, on a des indices très forts donc d'unité entre cette personne et l'autre. Effectivement, il utiliserait Tor, un navigateur internet sécurisé, et RiseUp.net qui livre qui donne la possibilité d'avoir des comptes anonymes. Et en plus, il aurait dans sa bibliothèque un ouvrage intitulé Contre la démocratie ou des comptes rendus d'assemblée publique. Donc on tient là un dangereux terroriste. Ce que nous disent les camarades espagnols, alors c'est un texte, il y a un texte sur lundi matin, vous trouvez ça sur internet, qui est assez intéressant sur cette histoire là parce qu'il tente une petite analyse. Il dit de cette manière, en fait, ce que fait l'État, c'est de montrer des cibles et de séparer le plus possible des personnes qui luttent de l'ensemble du corps social. On a vu ça aussi ici avec l'affaire de la Belge. C'est montrer comment est-ce qu'il y a des gens ne font pas partie du commun, et de jeter le doute avec comme ça des opérations policières qui se multiplient et qui parce que là, les personnes qui sont arrêtées sont des personnes qui sont actives dans des collectifs de quartier. Etc. Donc on a vraiment comme ça des histoires assez compliquées qui démarrent en Espagne. Il y a la loi Mordaza, il faudra qu'on prenne le temps d'en parler, mais là c'est un peu court. On va repartir sur quelque chose qu'on a entendu plutôt samedi dernier, samedi 31, c'était la marche de la dignité. On parle encore de la police, mais là, cette fois-ci, c'est dans son usage quotidien, notamment dans ses discriminations racistes, la marche de la dignité. Et pour l'introduire, peut-être il faut faire un petit rétropédalage sur ce qu'on a entendu tout à l'heure de l'occupation. On vous a passé des gens très enthousiastes sur le fait que des gens occupent des locaux, et on a été content de trouver ces gens-là enthousiastes devant le centre social occupé. Mais par contre, toutes nous ont sorti la même chose, que quand même c'était triste de voir tous ces Français dehors alors qu'on accueillait des Syriens à bras ouverts. Et là, on se dit quand même, c'est sympa, c'est important qu'il y ait ce genre d'initiative, parce qu'on a trouvé des gens qui pourraient être du même côté que nous de la barricade. On a trouvé des gens de la CGT, on a trouvé des gens qui étaient motivés, qui n'étaient pas des bourgeois, qui n'étaient pas des ennemis, mais qui ont avalé ce racisme quotidien et cette division donc du corps social par la race. Donc, on
lance un avis de recherche. Hein, si vous trouvez les salopards qui leur mettent cette merde dans la tête, vous nous les amenez morts ou vifs, quoi. On pense aux journalistes de TF1, par exemple.
Heureusement, il y a d'autres gens qui nous aident. Là, c'est Leïla qui nous a passé un petit son qu'elle a fait à l'arrache.